France Inter.
À Fort-de-France, l'écrivain, penseur et citoyen poète Patrick Chamoiseau est l'auteur d'une œuvre engagée, faisant l'éloge de la diversité et de la fraternité. Mais comme l'écrit Romain Gary dans Claire de Femme, la fraternité, c'est la seule chose que les femmes et les hommes n'ont encore jamais essayé ensemble. Prix Goncourt pour son ouvrage Texaco, l'écrivain martiniquais signe une œuvre romanesque musicale et des essais pointant les lueurs qui existent dans l'obscurité. Citons Lettres créoles, Écrire en pays dominé, Frères migrants, Baudelaire jazz, Faire pays ou encore Le vent du Nord dans les fougères glacées, Biblique des derniers gestes, Chronique des sept misères et sa trilogie autobiographique Une enfance créole. Ancien étudiant en droit à Sceaux, Patrick Chamoiseau a exercé en Martinique le métier d'éducateur auprès de jeunes délinquants et d'individus souffrant de troubles psychiatriques. Il le fut aussi quelques années au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis. Co-signataire en 89 d'un éloge de la créolité avec Raphaël Confiant et Jean Bernabé, il se fait l'ardent défenseur du métissage des langues et des cultures. Il a reçu en 2023 le prix Marguerite Yourcenar pour l'ensemble de son œuvre et l'année dernière le grand prix d'excellence à vie du Center of Fiction de New York, à l'instar de chic types et types comme Salman Rushdie ou Toni Morrison. Il vient de publier au Seuil l'essai « Que peut la littérature quand elle ne peut ?» Tentative de réponse ce soir. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
J'ai fait une erreur, c'est « Que peut littérature quand elle ne peut ?» J'ai ajouté un « là », alors que votre musique est poétique et chantante.
Oui.
Pardonnez-moi, bonsoir Patrick Chamoiseau.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
Qu'est-ce que ça peut être ? Je pense que c'est mon pied d'oranger. J'ai un oranger à la maison. Et cette année, les oranges étaient très, très, très sucrées. Et j'en ai cueilli quelques-unes, là, récemment, et c'était vraiment un nectar. Et donc, c'est une célébration. Je suis assez sensible, hein, à la présence de la nature autour de nous, des arbres fruitiers, des fleurs.
Hors antenne, vous m'avez dit que vous aviez des amis arbres.
Oui, j'ai des amis parmi les arbres, j'ai des amis parmi les livres, j'avais des amis parmi les animaux, mais c'est trop dur de les perdre. Et là, j'ai quelques amis parmi les plantes, les arbres, les fleurs, etc. J'essaye d'avoir... j'aime beaucoup Yves Clément, je crois, hein, le jardinier planétaire.
Gilles Clément.
Oui, Gilles Clément, qui a toute une théorie sur l'organisation des jardins. Et j'essaye de faire un jardin qui attire les papillons, les abeilles, les criquets, etc. Donc voilà, c'est mon côté nature, mon côté biodiversité, auquel je suis très attentif.
Sur la chaîne, aujourd'hui, il y avait une journée spéciale consacrée à l'intelligence artificielle. Alors je vous pose une seule question dessus. Pensez-vous que les écrivains soient menacés par elle ?
Ah non, pas du tout. Je pense que tous les écrivains dans les années qui viennent auront un assistant IA. C'est un outil absolument formidable. Comme tous les outils, il y a un côté négatif et un côté positif. Mais je crois qu'on arrive à un moment de la perception du monde, parce que c'est ça, l'artiste aujourd'hui est confronté à la totalité monde. Il y a une complexité absolument inouïe qui est la nôtre, et être en littérature aujourd'hui, c'est être d'une certaine manière en face du réel du monde, c'est-à-dire une complexité inouïe. Et il y a tellement de données à emmagasiner, tellement de données à deviner, à percevoir, qu'être assisté par un appareil comme celui-là, ça sera absolument génial. Donc je pense que mes prochains livres seront faits avec l'intelligence artificielle.
C'est vrai ?
En tout cas, ouais, je les aurai à côté de moi, oui, ça c'est sûr.
Alors, le goût de la langue vous vient de votre père, qui était cordonnier puis facteur, qui vous voyait toute la famille. Et qui vous lisait à haute voix les fables de La Fontaine.
Oui. C'est-à-dire que mon père était mulâtre. Hein. Bon, pour expliquer tout ça, c'est une société coloniale, donc raciste, avec les Noirs qui étaient au bas de l'échelle, les Blancs qui étaient à l'autre bout, les béquets. Et puis, il y avait eu une surprise, c'était les mulâtres. Donc, les mulâtres n'étaient ni vraiment noirs, ni vraiment blancs, donc ils avaient un statut particulier. Et ils étaient très fascinés, ils essayaient donc de garder leur élévation. Et ils étaient très fascinés par la culture et la maîtrise de la langue française et la culture française. Alors que généralement, les gens du peuple d'origine africaine parlaient le créole et n'avaient pratiquement que très peu d'accès à la culture française et à la langue française. Donc, parler le français, c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Une bonne raison de la fascination qu'avaient les Martiniquais pour Césaire, c'était la maîtrise qu'il avait de la langue française. Et mon père, qui, pour terrasser ma mère qui était créolophone, il lui sortait des tirades de La Fontaine, il adorait La Fontaine, et c'était impressionnant de voir l'amour qu'il avait pour cette langue et l'amour qu'il avait pour le style absolument incroyable de La Fontaine. C'est vraiment un artiste du langage qui est absolument étonnant. Donc pendant toute mon enfance, j'ai entendu mon père sortir des passages de La Fontaine.
Là, vous avez évoqué votre mère aussi, elle vous surnommait Oiseau de Cham.
Oiseau de Cham, oui. C'est-à-dire qu'il y a la malédiction de Cham, il a été déclaré esclave de ses frères.
C'est le fils de Noé, c'est ça ?
Voilà, donc les esclavagistes, quand ils ont commencé à piller l'Afrique et à razzier tout ce qu'ils trouvaient sur les côtes occidentales de l'Afrique pour les ramener en esclavage dans les Antilles. Pour justifier l'injustifiable, ils ont inventé, ils ont inventé le nègre. Et puis, il y avait cette histoire de la malédiction biblique qui tombait bien à propos et qui leur permettait de justifier ce qu'ils faisaient. Et ma mère, je ne sais pas où elle avait pris ça, mais très souvent, elle m'appelait Oiseau de Cham, ouais.
Il paraît que c'est le père de ceux qui ont construit la tour de Babel.
Oui, la tour de Babel.
Ça me frappe quand même, vous concernant, Patrick Chamoiseau.
Oui,
qui
Babel
si
est possible.
Oui,
je crois qu'on est, dans une situation où on peut envisager Babel sans difficulté. Je crois que l'écrivain contemporain se trouve dans une situation quasiment babélique. C'est-à-dire que autant Balzac était en face de la langue française et qu'il n'avait pas de soucis particuliers à imaginer que d'autres langues pouvaient l'aider, autant par exemple Joyce s'est trouvé rapidement dans la nécessité d'aller au-delà de l'anglais. Et tous les écrivains contemporains, devant leur feuille blanche, ils ne peuvent que désirer toutes les langues du monde. Nous avons la rumeur de toutes les langues. Elles sont belles, elles sont magnifiques, elles détiennent un bout de la poésie du monde. Et tous les écrivains sont très malheureux de ne pas pouvoir disposer de plus de langues que ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la nécessité du style. Le style, c'était l'embellissement d'une langue. Hein. On traitait une langue comme une cathédrale, on était à l'intérieur, et puis on la magnifiait. Aujourd'hui, nous sommes plus dans la possibilité du langage. Le style ignorait les autres langues, alors que le langage peut faire appel à d'autres langues et pratiquer, une sorte de multi-translinguistique. Et le père du langage, fondamentalement, c'est Rabelais. Rabelais avait une liberté linguistique qui était absolument totale, une gourmandise pour tout ce qui existait comme expression, qu'elle soit savante, qu'elle soit populaire, qu'elle soit précieuse, qu'elle soit grossière. Et aujourd'hui, c'est cette attitude-là qu'il faudrait qu'on ait. Nous ne pouvons pas nous enfermer dans une langue. Nous ne pouvons pas traiter une langue en absolu. Il nous faut aujourd'hui avoir le désir imaginant de toutes les langues du monde. Et quand j'écris, j'ai le désir de la langue créole, j'ai le désir de la langue française, et j'imagine presque toutes les langues du monde, et j'essaye de faire en sorte que ça apparaisse dans ce que j'écris. Alors ça ne veut pas dire que je connais les langues, mais du coup ma langue, elle est tremblante, elle est incertaine. Il n'y a pas cette espèce d'orgueil de la langue qui existe chez les écrivains lettrés ou les belles lettres anciennes, etc. Cette espèce d'assise ou de certitude linguistique qui n'est plus de mise aujourd'hui.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Patrick Chamoiseau, vous publiez « Que peut littérature quand elle ne peut au seuil ?» cri poétique de résistance pour tous les peuples opprimés, comme, je vous cite, les Tibétains et les Ouïghours en Chine, les Tutsis au Burundi et au Rwanda, les Kurdes en Syrie, en Irak, en Turquie, les peuples originels dans les Amériques et dans leurs archipels, tout cela en souffrance, en danger et tant d'autres. Et vous ajoutez Haïtiens, Syriens, Libanais, Antillais et évidemment en ce moment Ukrainiens et victimes de l'extrême droite israélienne et du Hamas. Je ne cite pas tout, mais je crois que vous n'oubliez personne. Et vous écrivez ceci, nous acceptons l'inacceptable jusqu'à l'inscrire dans nos banalités. Et ma question est la suivante, peut-on faire autrement?
Ah, oui et non. Hein. Oui, on peut faire autrement. Ça ne veut pas dire qu'on ait les moyens d'agir, hein, et c'est là que la question de la littérature se pose. Je me dis toujours, mais à quoi ça sert d'écrire mes histoires, mes poèmes, mes réflexions, alors qu'il y a tant de souffrances dans le monde? Mais je crois qu'on peut faire autrement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'un romancier, un poète, ou un musicien, ou un artiste aujourd'hui, qui essaierait de s'abstraire de ces réalités douloureuses du monde et qui essaierait de fonder une expression qui ne tiendrait pas compte de la présence du mal, de la souffrance, et serait en difficulté. L'autre élément, c'est que l'échelle artistique, c'est-à-dire que le champ d'intervention d'un artiste, hein, le champ d'intervention d'un écrivain, aujourd'hui, c'est pas son pays, c'est pas sa nation, c'est pas sa langue, c'est le monde. Nous vivons à l'échelle planétaire. Ce qui va se passer dans un petit coin perdu de la planète va nous revenir très très vite de manière catastrophique. Donc, on ne peut plus ignorer le monde. Ce qui fait que nous devons vivre, penser, ressentir avec le monde. Et le simple fait de penser à eux quand on écrit, de les avoir en tête, de savoir que ça existe et de considérer qu'à l'intérieur de ce qu'on écrit, il y a cette présence-là, ça suffit. C'est déjà quelque chose.
La situation qui est la nôtre n'admet plus l'existence de l'art, et c'est à cela que tendait le propos affirmant l'impossibilité d'écrire des poèmes après Auschwitz. Et pourtant, notre situation a besoin d'art, car la réalité dénuée d'images est le contraire absolu de la situation collective où les images seraient abolies et où l'art disparaîtrait parce que ce serait accompli l'utopie dont le chiffre secret s'inscrit dans toute œuvre d'art.
Patrick Chamoiseau, vous y faites évidemment référence dans Que peut littérature quand elle ne peut. C'est la conférence à Genève de 67 de Théodore Adorno qui oui. affirmait l'impossibilité d'écrire des poèmes lyriques après l'impensable d'Auschwitz. Et vous écrivez, on aurait envie de lui donner raison. Et vous dites aussi, le geste culturel doit en accuser le choc. Et vous illustrez votre propos par une photographie. La photographie
du petit Eilan, oui, qui... Il y a quelques années, pendant qu'on découvrait un petit peu toutes ces morts qui se produisaient régulièrement en Méditerranée, ça rentrait dans une sorte de banalité médiatique absolument effarante. Et puis un jour, il y a eu cette photo d'un photographe. J'ai beaucoup regardé la photo. Elle est vraiment étonnante. Hein. Je crois qu'il avait un tricot rouge. La position du corps, le sable, enfin, il y a tout un tas de paramètres esthétiques absolument incroyables qui font que ce qui est horrible est en même temps une grâce incroyable. Et je crois que l'image pouvait déclencher une émotion planétaire qui a permis à la chancelière allemande d'accueillir plusieurs centaines de migrants, mais ça montre la puissance de l'image. Parce que quand je dis qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existe pas, une image comme celle-là déclenche des sensations. Les sensations déclenchent des images. Les images déclenchent des idées, des perceptions. Et ça peut ouvrir la voie à un poème, à une perception, à une description. Et ça, c'est important. Ce qui fait que l'œuvre d'art, même si elle n'est pas directement, dénonciatrice, elle peut susciter dans l'architecture sensible de quelqu'un, susciter des déflagrations esthétiques qui sont absolument précieuses et qui peuvent augmenter la lucidité.
Alors, êtes-vous opposé au concept de l'art pour l'art que prenaient Théophile Gautier ou Oscar Wilde, c'est-à-dire l'art sans visée morale ?
Non, c'est-à-dire que c'est pas incompatible. L'art est libre, hein, le créateur est libre, mais le créateur peut être conscient. La difficulté, ce serait un art engagé. Mettre son art au service d'une dénonciation, ça peut se concevoir, mais ce qui anime profondément l'œuvre d'art, c'est une liberté conceptuel, c'est-à-dire que c'est un saut dans l'inconnu. C'est dans l'inconnu qu'on va ramener quelque chose qui va nous étonner. Ceci étant, On doit être habité par son époque, être habité surtout par les souffrances de l'époque, avoir, la divination de l'humaine condition. Et à partir de là, ce qu'on va produire sera de toute manière imprégné par cela. Et c'est en cela que l'art conscient est très très intéressant. Il est inévitable, il n'y a pas d'art sans conscience. Par contre, on peut avoir un art qui ne soit pas engagé, directement engagé ou formellement engagé.
Vous soulevez toutes les souffrances du monde et vous parlez aussi des lucioles. Et moi, ça m'a fait penser au texte de Pier Paolo Pasolini, l'article des lucioles sur les lumières aveuglantes du pouvoir, le fascisme, et la disparition des lueurs du contre-pouvoir.
Oui.
Voyez-vous toujours les lueurs, même dans les choses les plus enténébrées ?
Ah oui. Moi, j'ai appris à regarder les petites choses, à m'émerveiller des petites choses. Vous savez, en créole, il y a une petite phrase qui dit... Bête à fée qu'a clairé pour le nom Miocel, la luciole n'éclaire que sa seule âme. Et Césaire, c'est un proverbe créole, et Césaire a répondu à ça, il ne faut jamais désespérer des lucioles. C'est-à-dire que quand on est dans une nuit, moi j'ai marché dans les nuits antillaises, il n'y avait pas d'électricité, c'est des nuits tropicales. Et puis quand on voit la constellation des lucioles comme ça autour de certains arbres, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il y a une conjuration de la désespérance de l'ombre. C'est-à-dire que même si la luciole ne va pas éclairer le chemin pour vous indiquer un chemin, elle va recréer une sorte d'accompagnement de la marche, une sorte d'orientation de la marche, en tout cas un contentement, une sorte de plaisir, un enchantement qui va vous aider à vivre et à traverser la nuit. Moi, je crois beaucoup aux lucioles. Et je crois aussi à l'état poétique. L'état poétique, c'est ça. L'état poétique, c'est développer en soi une manière de vivre qui soit tellement sensible, tellement attentive, tellement contemplative et tellement, je dirais, compassionnelle, qu'on arrive à amplifier son champ de perception et qu'on arrive à ne rien ignorer de ce qui est autour de nous. Et ça permet de réenchanter pratiquement les choses les plus bizarres ou les plus inutiles.
Mais on peut être aussi détruit de tout recevoir.
Non, parce que la perception que l'on a est de l'ordre de la célébration. Saint John Perse disait « je parle dans l'estime ». Je parle dans l'estime, ça veut dire que je regarde les choses avec une lucidité qui me permet de les accepter telles qu'elles sont. C'est vrai que la nature ou les diverses situations qu'on peut observer, elles sont désespérantes. Par exemple, la photo du petit Aylan, je l'ai longuement contemplée, je voulais comprendre le mystère. C'est à la fois horrible, ces enfants qui meurent, et en même temps, j'ai quand même réussi à trouver la stimulation artistique, esthétique, l'espèce de constellations de lucioles, c'est-à-dire d'images, de sensations, d'odeurs, de perceptions qui se déclenchent quand on observe un objet esthétique. Et cette richesse en termes de réaction suffit à emporter tout ce qui serait de l'ordre du négatif.
Vous avez le sentiment donc que la négritude est un concept plus radical ?
Plus radical et plus large et plus généreux. Et plus généreux et qui comporte et qui souligne une fidélité et un devoir de mémoire. Combien d'Antillais j'ai connu en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéen. Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient Sud-Américains. Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est cet aspect de l'héritage. Parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Et c'est pour cela. S'il n'avait été autrement, certainement j'aurais fait autre chose. Mais il y avait ça, et il fallait rétablir une vérité historique.
Aimé Césaire, interviewé par Michel Field en 94 sur Antenne 2. Patrick Chamoiseau, vous avez écrit sur lui. Vous avez grandi aussi avec un frère aîné qui récitait chaque matin des vers du poète. Est-ce que vous auriez la gentillesse de lire un extrait de votre livre qui parle de Césaire ?
Ah oui, avec plaisir. Césaire nous l'avait rappelé. Quand une civilisation dominante renonce à ses propres valeurs, qu'elle ruse avec ses avancées, quand elle justifie l'injustifiable, quand elle déserte ses propres élaborations de ce qui est humain, ou qu'elle accepte que des pays s'effondrent, que des valeurs périssent, que des lots d'êtres humains puissent mourir à ses portes. C'est qu'il y a une part de l'intelligible et du sensible, même un au-delà de l'intelligible et du sensible, qui s'est fermé à toute élévation. Césaire est formidable.
Elle vous rappelez dans Libération en 2017 que le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, sur lequel vous avez écrit Les damnés de la terre ou Peau noire, masque blanc de Fanon ou encore Le discours anti-aide glissant, ont fait plus de mal au colonialisme que toutes les résistances armées lors des indépendances. Est-ce que c'est possible aujourd'hui qu'un livre ait autant de puissance?
Ah oui, je pense qu'il n'y a pas un combattant dans le monde, dans un maquis quelconque, qui ne soit animé par, soit par une musique, soit par un poème, soit par une lecture. Et l'esprit de poésie est très présent chez les gens qui se battent. J'ai l'impression que la situation, quand on vit une injustice, ça développe une sorte de, je dirais, de perception horizontale des choses. Et dans la perception horizontale, on devient sensible à des choses qui sont de l'ordre de la stimulation poétique, à l'observation, à la contemplation. Et pour commencer, dans Massoud, il raconte qu'il, tous les soirs, dans les montagnes, il se réunissait et lisait des poèmes. Et le Che Guevara, pareil. C'est assez extraordinaire, l'importance de la poésie. Pourquoi ? Parce que la poésie, c'est la tentative de dire l'indicible, de capter ce qui, dans l'existant autour de nous, n'est pas immédiatement perceptible, mais que l'on ressent et qu'on ne peut pas exprimer. Et le poète, c'est celui qui est posé en face de l'impensable du réel et qui va opérer régulièrement des saisies dans le réel. Et ce qu'il va nous ramener de l'impensable du réel va amplifier nos réalités. Ce qui fait que les combattants qui se battent avec de la poésie, ils y trouvent de l'espérance, ils y trouvent le meilleur exemple, c'est René Char. René Char, il avait son Colt de maquisard à côté de lui et il écrivait les feuillets d'hypnose. Et les feuillets le tenaient en vie et tenaient en vie pratiquement tout son groupe de résistants. Et la poésie était comme une sorte d'intensité absolument incroyable qui gardait actif la dimension, active la dimension humaine de leur être.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Patrick Chamoiseau, vous publiez Que peut littérature quand elle ne peut au seuil, un texte émaillé de notes de votre Sentimentèque, la bibliothèque sentimentale des écrivains qui vous ont forgé, que vous dévoiliez déjà dans votre essai de 97, Écrire en pays dominé. Et dedans, on retrouve Gabriel Garcia Marquez pour évidemment S'entendre solitude et un livre un peu moins connu, L'automne du patriarche. Et puis Cervantes, est-ce que vous vous sentez comme Don Quichotte ?
Oui, peut-être, parce que Don Quichotte, il est en face du réel, de l'impensable du réel, et il se bat avec des choses invisibles qu'il est le seul à pouvoir envisager. Et ça, c'est important, parce que en général, l'Homo sapiens, il se construit des petites réalités, il est enfermé dans sa réalité, sa culture, son dieu, etc. Et puis, cette petite réalité lui permet de simplifier l'infinie complexité du réel. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le réel vient bousculer la réalité. Lacan disait, le réel, c'est quand on se cogne. Ce qui fait que le poète, par définition, c'est celui qui, plutôt que de s'enfermer dans la petite réalité, le petit confort bien déchiffrable, il va se mettre en face du réel et là, il va tenter d'élargir les murs de la réalité. Et Don Quichotte, c'est ça, il est en face du réel et il va imaginer tellement de choses dans cette folie créatrice qu'il va en faire que sa vie sera, je dirais, une vie d'une expansion créatrice absolument incroyable. Et c'est ça qui est important, parce que ce que j'ai pu comprendre en observant le système des plantations esclavagistes dans les Amériques, ce que l'esclavage supprimait chez l'Africain qui était réduit en esclavage, c'était sa créativité. Et la créativité, c'est-à-dire qu'il se retrouvait dans une situation où il était complètement enfermé dans une petite réalité esclavagiste, et il n'avait plus accès au réel du monde. Ce qui fait que les résistants les plus déterminants, ça va pas être les nègres marrons, ceux qui vont partir, sortir le coutelas, brûler les champs, etc., et s'enfuir dans la forêt. Les plus résistants, ce seront les créateurs.
L'art a toujours fait peur au pouvoir.
L'art a fait peur au pouvoir. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les maîtres esclavagistes ne se rendaient pas compte que celui qui jouait du tambour, qui dansait, qui chantait, ou même le conteur qui venait raconter des trucs pendant les veillées mortuaires, il ne se doutait pas qu'il y avait une contestation radicale. Alors pourquoi ? Parce que ces gens-là, plutôt que de se laisser enfermer dans le récit colonial, ils se sont mis en face du réel, et en face du réel, on ne peut être que créateur.
Le morceau Ancinelle de T. Émile, c'est du belay.
Ouais, c'est
et
du
ça,
belay.
Vous en parlez, Patrick Chamoiseau.
Oui, parce que ça fait partie de ce qui a surgi dans les plantations. La première apparition, c'est la polyrythmie africaine. Hein. L'esclave africain a été débarrassé de tout ce qu'il avait, sauf peut-être ses scarifications. Et il a fait appel à la mémoire du corps. Et dans la mémoire du corps, il y a la mémoire des rythmes. Ce qui fait que la polyrythmie africaine a traversé les bâtons négriers, a survécu à la cale du bâton négrier, est arrivée dans la plantation. Et la polyrythmie africaine va donner naissance à la danse, des danses africaines qui vont réapparaître dans la plantation, et bien sûr les chanteurs. Et ça, c'est le début d'une contestation profonde qui va se produire à l'intérieur de la plantation esclavagiste. Et si on a eu des nègres marrons, parce qu'il y a eu beaucoup de nègres marrons, c'est parce que les esclaves qui se nourrissaient à la polyrythmie, aux danseurs, aux chanteurs et aux conteurs, trouvaient dans ce qui se produisait là la force, le courage, l'espérance qui leur permettait de s'enfuir et de résister de manière ouverte à l'esclavage. C'est ça, c'est une leçon. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le monde désespérant dans lequel nous sommes, de tous côtés, ce que nous voyons est absolument effrayant, on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans une situation comme ça ? On se sent impuissant. Et c'est là qu'il faut penser à la puissance de l'art. La littérature, c'est une puissance, ce n'est pas un pouvoir. C'est une puissance, c'est-à-dire une intensité incroyable de potentialité, de possibilité, de ligne de fuite, de devenir potentiel. Et ça, il nous faut cultiver ça. Ce que nous avons à faire aujourd'hui pour résister, c'est de la créativité culturelle.
Et ça n'a pas été toujours si évident pour vous, puisque vous êtes le co-signataire d'un éloge de la créolité, mais c'est un travail, vous réapproprier cette créolité qui vous a pris 20 ans, puisque vous aussi, vous avez cru pendant longtemps ce qu'on inculquait, à tort évidemment, c'était que le français était supérieur aux autres langues, et donc au créole.
Ah oui, c'est le principe colonial, le colonialiste érigeait sa langue en absolu.
Et vous étiez mutique, enfant.
J'étais mutique parce que je pensais en créole, donc j'arrive... Ma langue maternelle, c'est le créole. Ma mère était créolophone. Mon père récitait La Fontaine, donc la langue française ne m'était pas étrangère. Mais mon tissu sensible en lien avec le réel, c'était le créole. Et quand j'arrive à l'école, créole interdit. Et non seulement il est interdit, il y a quand même une très grande proximité lexicale entre le créole et le français, parce que c'est beaucoup de vieux mots français qui ont traversé les siècles, qui ont été déformés. Ce qui fait que lorsqu'on essayait de parler français à l'école, on mélangeait les deux langues. Et ça, c'était l'horreur totale. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas infecter la langue française avec ce mot, cette langue de sauvage, etc. Et moi, du coup, j'ai préféré me taire. Mais ça m'a permis de compenser par l'écriture.
Et vous dites d'ailleurs que vous employez un français qui va du plus obsolète et du plus oublié jusqu'au lexique contemporain.
Ah oui, parce que j'ai été à bonne école. J'avais un professeur qui était un amoureux de Villon.
Oh,
et Villon, quand on lit François Villon, c'est une espèce de langage incroyable. Ce qui fait que j'ai été fasciné par François Villon. Du coup, je me suis jeté dans Rabelais. Et Rabelais aussi, je l'ai découvert et amplifié parce que j'étais aussi grand lecteur de romans policiers. Et j'avais découvert San Antonio.
Oui, ça oui.
San Antonio, il prenait la langue. C'était de l'argot, de l'ouba, etc.
Un grand inventeur.
Et je me retrouvais dans une situation où d'un côté, la langue française était sacralisée. Et en même temps, je vois San Antonio, Rabelais et Villon qui font de la langue française une espèce de langage complètement inconnu. Et ça, ça m'a libéré de manière absolument exceptionnelle. Donc je sais aujourd'hui que ce qui est important, ce n'est pas la langue maternelle ou telle langue. On ne peut pas entrer dans un absolu linguistique. Nous avons à notre disposition toutes les langues du monde. Et il faut faire comme Rabelais, c'est-à-dire déployer non pas un style, mais un langage dans le champ lexical, le champ linguistique qui vous est donné. C'est ça la situation de l'écrivain contemporain.
À mon avis, le problème qui se pose pour des Antillais est celui de renouer avec une histoire dont ils ont perdu le sens et le contact. Et je crois qu'il n'y a pratiquement rien de plus terrible pour un homme que de n'avoir pas d'histoire, de n'avoir pas de passé. Quand on en a une, quand on a un passé, quand on a une histoire, on est libre de s'en défaire ou de s'en débarrasser ou de s'en couper. On peut dire, ça m'embête, toutes ces histoires-là, mais on a fait un choix. Quand on n'en a pas, ou quand on a oublié collectivement son passé, eh bien, il s'ensuit un déséquilibre terrible pour l'être et pour la collectivité. Et je crois que c'est une des fonctions de la littérature, en tout cas pour moi, que d'essayer de combattre ce déséquilibre de l'être et de lui redonner une certaine santé.
Vous souriez, Patrick Chamoiseau, en écoutant Édouard Glissant. C'était en 64 sur l'ORTF. Vous avez publié des ouvrages avec ce poète et philosophe. Et est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le tout-monde?
Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est que dès les années 50, Glissant, qui est anticolonialiste et qui va se battre contre les colons en Algérie, enfin, il va participer à la résistance, il va écrire d'abord « Soleil de la conscience » et « Intention poétique ». Et tout de suite, alors que bon, les choses sont manichéennes, il y a les colonialistes, les colonisés, les blancs, les noirs, enfin bon, on se bat, on veut se libérer. Et lui, il dit « Attention, c'est pas le plus important ». Ce qui s'est passé avec la colonisation, c'est que toutes les civilisations, les cultures se sont rencontrées et que désormais, avec l'émergence capitaliste, l'affirmation capitaliste, il y a une globalisation du monde. Ce qui fait que nous serons de plus en plus obligés d'habiter cette rencontre de culture et de civilisation, donc ce qu'il va appeler la créolisation, mais nous allons être obligés de nous construire, de nous penser, de nous envisager dans la relation de toutes ces cultures entre elles. Et il dit, le fait que toutes ces cultures et civilisations et individus sont aujourd'hui reliés, ça crée une entité relationnelle, une entité dynamique qui est absolument extraordinaire et qu'il appelle le tout-monde. Alors, le tout-monde, c'est à la fois le monde globalisé par l'économie capitaliste, mais c'est aussi un autre monde que les colonialistes n'ont pas envisagé, et surtout pas les capitalistes, qui est la mondialité, c'est-à-dire la rencontre des imaginaires, des cultures, des langues, des sensibilités, des individus, et ça fait une réalité planétaire qui est la richesse d'aujourd'hui.
D'ailleurs, à la notion d'arbre généalogique, vous préférez celle d'arbre relationnel.
Ah, bien sûr.
À la notion d'universalité, vous préférez celle de diversalité. Et Édouard Glissant, c'est aussi quelqu'un qui vous a incité à pousser votre esprit et votre imaginaire le plus loin possible. Et ça, c'est très intéressant, la question de l'imaginaire, puisque vous dites, Patrick Chamoiseau, que vous voyez parfois des jeunes qui sont très vieux dans leur tête, et pour vous, la définition de la vieillesse, bah, c'est le manque d'imaginaire.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut développer son imaginaire ?
Pour développer son imaginaire, il faut vivre un état poétique. Et vivre un état poétique, il faut d'abord s'exposer à des stimulations artistiques et esthétiques, écouter de la musique, lire des poèmes, réciter des poèmes, aller aux expositions, fréquenter des plasticiens, chanter, danser. C'est tout le poétique de l'existence, l'amour, l'amitié, la fête, la danse. C'est ça le poétique. Et développer cette dimension-là. Parce que ce que le capitalisme a fait, c'est qu'il a développé l'autre partie, la partie prosaïque. Manger, boire, mon pouvoir d'achat, etc., ma sécurité. Et si le prosaïque n'a pas de poétique, ça donne Trump. C'est-à-dire, donnant, économie, je te donne ça, tu me donnes ça. C'est vraiment la misère humaine la plus totale. Le poétique est absolument essentiel. Ce qui fait que vivre en état poétique, développer son état poétique, c'est quelque chose qui vous permet de vivre à une intensité absolument incroyable. Ce qui fait que le problème est moins à la limite de résister que d'exister. Quand on développe l'état poétique, on existe, c'est-à-dire on sort de ce qui nous a été imposé par la petite réalité dominatrice, et on se met à regarder les fleurs, à regarder les plantes, à être gourmand de l'autre. Mais l'autre, c'est pas simplement l'autre être humain, c'est les animaux, c'est les arbres, c'est les fleurs, c'est le don de soi. Et l'autre élément, c'est que lorsqu'on est en état poétique, on va développer une sorte de, d'arc-en-ciel de combat, de rêve, d'idéaux. C'est ce que j'appelle l'arbre relationnel du nous. On va développer des nous. Ce qui fait qu'une personne accomplie en état poétique, c'est quelqu'un qui se trouve en solidarité immédiate avec toutes les souffrances du monde.
La sobriété narrative de Miles Davis connaît la limpidité du Petit Prince de Saint-Exupéry et la complexité rieuse d'un texte de Kundera.
Exact.
Ce sont vos mots, Patrick Chamoiseau, écrit dans Que peut littérature quand elle ne peut. Et c'était Miles Davis, So What, que vous avez choisi d'écouter ce soir.
Ah oui, là on a une espèce d'élargissement infini de quelque chose de très simple, de très sobre. Et ça n'en finit pas de s'amplifier comme ça, c'est absolument remarquable.
Alors le jazz est la musique parfaite pour illustrer ce que vous décrivez depuis tout à l'heure, par sa capacité d'improvisation, d'enrichissement.
Ah, il y a plusieurs possibilités. Hein. On peut avoir aussi la démesure, on peut aussi avoir la sobriété. Moi j'ai toujours été fasciné par quand je parle de langage, la mobilisation, le désir imaginant de toutes les langues du monde, les gens imaginent des choses très compliquées, etc. On peut avoir effectivement un style, une espèce de langage baroque, mais on peut aussi avoir la limpidité incroyable de Saint-Exupéry. Ça va dans les deux sens, ça peut être dans le minimalisme, la sobriété, l'instant comme ça capté de manière très subtile, et puis ça peut être dans une démesure de la démesure. Tout est possible.
De vos choix musicaux, vous qui sacrifiez tout à la musique en littérature, Patrick Chamoiseau, c'est Aïdjéré de Jocelyne Béroard.
Oui, elle raconte l'histoire du roi Béhanzin du Bénin qui a été capturé par les colonialistes et qui a été exilé en Martinique. Et ce moment-là m'a toujours intéressé. J'ai fait un film avec Guy Deslauriers, on raconte un petit peu l'exil. C'était la première fois d'une certaine manière.
Aliker ?
Non, Béhanzin, ah oui. L'exil du roi Béhanzin. Et c'était la première fois que l'Afrique, et l'Afrique a beaucoup de rois africains ont vendu des esclaves aux négriers, Et c'était la première fois qu'un Africain venait dans les Amériques pour voir ce qui est arrivé aux enfants de l'Afrique. Et ça, ce moment-là a toujours été particulier. Glissant l'a beaucoup exploré. Et moi, je me suis posé la même question. Mais qu'est-ce qu'il a dû penser de nous quand il est arrivé comme ça en Martinique et qu'il a vu ce qu'étaient devenus les descendants des Africains qui avaient été déportés? Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Et c'est quelque chose qui, poétiquement, me travaille. Et cette chanson-là, elle est assez magnifique parce qu'elle dit peut-être tout le trouble, toute l'interrogation, toute la tendresse, toute l'incompréhension de ce vieux résistant qui découvre les fils de l'Afrique qui ont été arrachés à l'Afrique et qui sont entrés dans un autre devenir. C'est assez pathétique. Et cette chanson-là, on devrait la connaître beaucoup plus.
Vous dites que c'est assez pathétique en souriant et en riant.
Oui, parce que le rire chez moi n'a pas... Le rire est lié à des systèmes émotionnels. Quand on vit en état poétique, on a une météorologie émotionnelle très particulière. Ce qui fait que mon rire n'a pas de fonction, les fonctions habituelles. C'est ça plus une fonction, je dirais, d'un quintessence, quoi. C'est-à-dire, il y a un tel bloc de sentiments et de sensibilités contradictoires que le rire arrive à résumer tout cela, un petit rire qui est pour moi et qui est un peu comme une musique. Hein. Je fais de la musique avec mes émotions.
Et ben, encore un autre choix musical.
C'est patience qui toute force non dans la vie. Non, même garçon pas découragé. Problème qui finit toujours tout d'un.
Alors là, qu'est-ce qu'on entend, Patrick Chamoiseau ?
Mais on entend un compas direct. Hein, les Haïtiens sont très très puissants en matière de créativité populaire. Et cette musique-là, elle est absolument, absolument sublime.
C'est Patience des Gypsies de Pétionville.
Oui, c'est une réflexion sur la patience. C'est une sorte de petit discours philosophique que j'ai analysé dans la matière de l'absence assez soigneusement. Je le fais parce que ces musiques-là sont pas connues, elles sont un peu, à part pour nous, hein, antillais. Ça me rappelle une anecdote que Bernard Lavilliers raconte. Il dit qu'il a rencontré le président François Mitterrand. Et le président qui prend ses nouvelles, il le dit sous un ton un peu moqueur, un peu condescendant. Alors, vous êtes toujours dans les musiques tropicales et les causes perdues. Causes perdues et musique tropicale.
Ah oui.
Et Lavilliers a répondu oui, monsieur le président. Et il en a fait le titre de son album. Ce qui fait que se trouver du côté des causes perdues, de ces musiques que l'on n'écoute pas, de ces choses qui sont désespérées, comme Césaire, qui va prendre le mot nègre, le mot le plus dévalorisé, le plus vilipendé de son époque, et il va en faire un soleil poétique. C'est ça, se trouver du côté des causes perdues et des musiques tropicales.
Alors là, justement, il nous reste une minute pour parler d'un percussionniste dans une fanfare caribéenne, mais qui n'est pas connu pour ça, qui est surtout connu car c'est un artiste plasticien. Et vous avez décidé de le faire découvrir aux auditeurs, Patrick Chamoiseau. Vous avez écrit le texte de présentation du livre Le Panthéon de la Relation, consacré à son exposition. C'est l'artiste d'origine guadeloupéenne et italienne, Raphaël Barontini.
Oui, oui, il mélange les Antilles, l'Italie, l'Europe. C'est ce que j'appelle un métamétis planétaire. Vous savez que la créolisation, c'est un métissage imprévisible. La résultante est imprévisible. Et je crois que là, on a dans cette sensibilité, dans l'imaginaire de Raphaël Barontini, il faut regarder son exposition et voir son livre, on a un imaginaire pratiquement sans limite. C'est-à-dire qu'il a une curiosité, une gourmandise pour toutes les manifestations esthétiques du monde, toutes les toiles, toutes les couleurs, toutes les formes. Et ce qu'il exprime, c'est véritablement la mise en relation de toute la richesse humaine. Il est absolument formidable.
Et donc, c'est la figure du poète dont vous parliez tout à l'heure. Merci beaucoup, Patrick Chamoiseau. Votre livre « Que peut littérature quand elle ne peut » est paru le 7 février au Seuil. Votre roman « La matière de l'absence » a été traduit en anglais aux éditions Liverpool University, parution le 28 février. Et vous avez écrit, on vient de le dire, le texte de présentation « Le Panthéon de la Relation » dans le livre consacré à l'exposition de Raphaël Barontini. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Danich et Franck Oliva. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïs Moreau. À demain, 20h10.